Oui, c'est un constat hein, que font souvent malheureusement les pompiers lorsqu'ils sont sur des incendies de bord d'autoroute ou de national ou de départemental. Ils disent souvent ce qui se passe, c'est que c'est un mégot jeté par la fenêtre. Alors c'est marrant parce que en le faisant, j'ai encore le geste quand je fumais et je le faisais par la fenêtre. Tu sais, c'est la pichenette, tu finis ta cigarette, tu la coinces entre le pouce et le majeur, et bim, et tu l'envoies comme ça par la. Alors, en général, tu l'éteins pas, elle part comme ça, incandescente. Du coup, jusqu'où doit-on aller? Remettre des cendriers dans les voitures, interdire de fumer au volant, 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Ah,
déjà, il y a un constat, c'est une étude Vinci hein, pour les autoroutes qui montre que 18% des fumeurs reconnaissent jeter leur mégot par la fenêtre de leur voiture. Il y a un autre chiffre qui circule, c'est celui du ministère de la Transition écologique, qui estime qu'entre 20 000 et 25 000 tonnes de mégots sont abandonnées chaque année dans la nature en France. Cela représente des dizaines de milliards de mégots. Vous imaginez? Donc, ils sont la plupart du temps éteints. Ils ne provoquent pas d'incendie, mais enfin, certains quand même provoquent des incendies et on le constate en ce moment, hein. Ces incendies sont pour la plupart d'origine humaine. Alors, soit accidentels avec le mégot, soit parfois, malheureusement, intentionnels. Il y a des pyromanes qui agissent. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre ça? On fait des campagnes de prévention. Alors, on peut mettre des amendes aussi, mais c'est pas évident parce qu'il faut prendre les gens en flagrant délit. Ou est-ce qu'il faut interdire la cigarette dans la voiture? Alors, il y aura sans doute des gens d'accord avec ça. Faut-il remettre des cendriers aussi, parce qu'il n'y a plus de cendriers dans les voitures?
Flora?
Qu'on soit bien clair, les gens qui jettent leurs mégots sont des criminels. On est dans un moment où le réchauffement climatique s'embrase et s'accélère, où il y a des feux encore en cours dans le sud de la France et dans les Pyrénées. Et la climatisation, spoiler alerte, la climatisation n'empêchera pas les forêts de brûler. Donc les gens qui ont des solutions miracles au réchauffement climatique se rendront compte que ce n'est pas nécessaire.
Mourir, c'est quand même pas
et il se trouve que... Non mais je suis totalement pour la climatisation, je l'ai toujours été. Je dis juste que il y a le réchauffement climatique, c'est une série de problèmes, et notamment les forêts qui brûlent. Il se trouve que j'ai fait beaucoup de voitures le week-end dernier en France. La France est cramée. La pelouse, c'est devenu de la paille sur tout le territoire. Il faut aller se promener en voiture pour voir de quoi on parle. Non seulement les récoltes agricoles vont être chaotiques, mais surtout, la biodiversité va être de plus en plus menacée. Et la biodiversité, c'est pas qu'on veut protéger les jolis canards, c'est qu'on en a besoin pour respirer et pour survivre. Les feux, ils se déclenchent principalement avec les mégots. Ils se déclenchent aussi avec les bouteilles. Ils se déclenchent aussi avec les bouteilles en verre que les gens jettent, une bouteille de bière par exemple, qui fait un effet avec la chaleur et le soleil. Toutes les mesures, je suis très sérieuse quand je dis ça, qui permettent d'empêcher de brûler un hectare de forêt sont bonnes à prendre. Donc, s'il faut interdire les gens de fumer en voiture, voire interdire le tabac tout court, si j'étais députée, je voterais pour, sans aucune hésitation. Et je pèse mes mots. Et en fait, ceux qui ne comprennent pas que les mesures pour notre survie doivent être radicales, parce que si on chauffe à plus 3 degrés, on
punitif,
sera encore en vie. Si, non, radical. Si on chauffe à plus 4 degrés, là, ce sera punitif. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'humanité.
Je sais, c'est ta façon de faire. Toi, tu culpabilises les Français.
C'est pas ma façon.
On voit bien que ça marche.
J'essaye juste de prendre conscience.
C'est très
de
efficace.
Faire prendre conscience les gens. En fait, là, c'est comme
les
si on avait.
Les gens ont pris conscience,
en fait,
mais là, les culpabilisant, ça ne sert à rien.
C'est comme si on avait un cancer du poumon en phase terminale et qu'on se demandait s'il faut fumer deux paquets par jour ou un paquet par jour. À votre avis, c'est quoi la réponse?
Non, mais je pense que la prise de conscience écologique, elle est pédagogique. Quand on voit les petits, moi j'ai 5 petits-enfants, ils ont baigné là-dedans. Donc ils sont faits de plein de choses. Ça fait partie de leur environnement. Donc ils font attention à l'eau, ils jettent pas par terre. Ils ont des connaissances assez incroyables. Malheureusement, on ne pourra pas être dans chaque voiture, on ne pourra pas vérifier chaque conducteur s'il est en train de fumer ou pas.
On vérifie bien la
ceinture
de sécurité.
Mais je pense que si on optait pour une écologie participative, c'est-à-dire que si on incluait tous les gens de manière très pédagogique et de manière et en plus en arrêtant de les taxer au passage en général à chaque fois pour leur demander de l'argent sous couvert de l'écologie, parce que ça laisse des traces et ça a surtout rendu les gens méfiants. Mais quand on explique aux gens les phénomènes et qu'on est un peu plus participatif et pédagogique en disant que la Terre est notre bien commun à tous et que ce qui peut se produire, voilà qui va le payer autour de nous, c'est pas pareil que de punir systématiquement et de dire t'achètes ça, tu payes, tu consommes ça, tu payes, tu fais ça, c'est interdit. Non, c'est de dire que finalement, comme avec les enfants, c'est presque pareil. Or, aujourd'hui, l'écologie, elle est que punitive. Elle n'est pas participative. Il faut la rendre participative.
Je voudrais vous mettre tous et toutes d'accord. C'est beaucoup plus concret. Et je reviens sur le propos d'Olivier. La dérobade d'avoir enlevé les cendriers dans les voitures, voilà le responsable.
Bah oui, c'est une erreur.
Voilà le responsable, parce que celui qui fume, comment peut-il faire ? Il faut qu'il s'arrête, c'est très compliqué, c'est dangereux, on va lui reprocher de s'arrêter.
Avoir un petit cendrier portatif.
Oui, mais ça, c'est dangereux aussi. Non, c'est le fait qu'il n'y ait plus de cendriers dans les voitures. Après, effectivement, si vraiment il y a des zones maintenant qui sont accidentogènes en termes d'incendie, est-ce qu'il ne faut pas aller vers une interdiction saisonnière et déterminer géographiquement ? C'est effectivement possible aussi.
Tu jettes pas
alors,
le top, je regarde, même
l'hiver. J'ai un copain il a, qui est fumeur oui, encore dans sa voiture. Et tu sais ce qu'il fait ? C'est les mini-canettes.
Oui. Mmh.
Tu sais, voilà, les mini-canettes avec l'ouverture, et puis oui, là, il a transformé un cendrier, bon. Et du coup,
oui, un cendrier de poche, ça coûte entre 3 et 5 euros.
Bah oui,
oui, il y a les petits cendriers de poche.
On va demander. Non, mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup.
Parce que
alors, attendez, les GG.
On a un pompier, toi, tu choisis
de mettre une clope dans un cendrier de poche en roulant, c'est très dangereux.
Au GG, on a beaucoup de chance, on a beaucoup de personnes qui sont sur la route qui nous écoutent, puisque c'est les horaires où les gens qui sont sur la route écoutent la radio. Qui sont sur la route, écoutez-nous, la survie de notre humanité dépend de votre clope. Voilà, c'est ça le message.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce débat, il y a soit des solutions pratiques, à savoir, voilà, on remet des cendriers dans les voitures, on a son petit cendrier de poche, voilà. Et soit des mesures liberticides. Et qu'on a trop tendance, parce qu'on se dit c'est plus simple en France, de prendre des mesures liberticides et interdire les gens de fumer, voilà. C'est liberticide
et,
quand même.
Et on n'a voilà. plus les solutions concrètes parce qu'on est allé sur l'idéologie.
Nicolas, notre ami pompier dans le Rhône. Bonjour Nicolas.
Ouais, salut les GG, comment
ça
va ?
C'est vrai que c'est un fléau le mégot, Nicolas.
Pardon ?
C'est un fléau le mégot.
Bah, bien sûr que c'est un fléau le mégot, ouais, c'est sûr. Mais le problème, c'est souvent, c'est pas les gens qui résident dans les zones impactées. Hein, les gens qui résident là-bas, ils sont, comment dire, ils sont sensibilisés au risque. Mmh. C'est les gens qui sont de passage. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une solution qui est simple pour les pyromanes, hein, savoir ce qu'on en fait. C'est bien beau de punir, mais il faut punir. Ça ne sert à rien de leur mettre des peines de prison. Moi, je pense qu'il faut les envoyer sur le terrain, traiter les lisières avec les pompiers là, pendant des journées entières, aller gratter les souches et tout, ils vont voir ce que c'est, ils vont se rendre compte, et puis faire du débroussaillage en préventif. Voilà. Faut les impliquer. Voilà.
Les attrape, Nicolas, parce que celui qui jette son mégot par la fenêtre avant de l'attraper, c'est plus compliqué, quoi, Nicolas.
Ah oui, bien évidemment. Mais quand on les a attrapés, je pense qu'il faut... Pour leur montrer l'impact que ça
tu vas chercher l'ADN sur le mégot.
Ouais.
Tu peux, ouais.
Non, c'est trop évident, mais quelquefois on a des vidéos.
Nicolas, vous êtes capable, vous, en tant que sapeur-pompier, lorsque vous essayez de trouver la cause de l'incendie, de retrouver effectivement précisément un mégot et de se dire, tiens, c'est ça qui a déclenché l'incendie ?
Bah là, nous, c'est pas trop notre ressort, c'est plutôt les enquêteurs qui font ça. Mais après, le point de départ de feu, il est souvent facilement repérable. Mais après, sinon, hormis ça, les indices, c'est plutôt les services des forces de l'ordre qui s'en occupent et qui font voilà, qui remontent les pistes. Enfin, quelquefois, il y a des vidéos, il y a des photos. Là, dernièrement, on voyait des gens sur les réseaux qui envoient des photos d'une voiture devant eux avec des gens qui ont jeté des mégots. Enfin,
ouais.
Il y a des témoins.
Il y a des gens qui sont irresponsables, effectivement.
Nicolas, bon courage sur le terrain des incendies en ce moment à vous, à tous vos collègues. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. Salut, à bientôt Nicolas. Laurence veut réagir, elle est du côté de la Haute-Garonne. Bonjour Laurence.
Oui, bonjour.
Vous êtes témoin, vous, de temps en temps, de gens qui jettent les mégots par la fenêtre ?
Il y a pas le matin quand je pars travailler. Or, j'habite un peu la campagne, donc j'ai des champs secs en ce moment, trop de loin. Et pratiquement tous les matins, il y a un automobiliste, ou une automobiliste, je ne sais pas, qui jette son mégot par la fenêtre. Alors, le problème du cendrier, j'y crois pas trop, parce que les gens ne l'utiliseront pas. J'en suis convaincue, on pourra le salir, le prêt, c'est fatigant de le vider, etc.
Quand il y en avait, on l'utilisait. Quand les gens fumaient plus et qu'il y avait des cendriers.
Moi, je fumais, je ne l'utilisais jamais. Voilà.
Ah bon vous jetiez par la fenêtre
et Non, parce que je fumais dans les embouteillages, donc je l'ai écrasé. J'avais une petite boîte.
Mais Laurence, je vous pose la petite question vérité, puisque vous dites tous les matins, moi, je vois des gens qui jettent les mégots par la fenêtre. Est-ce que vous pourriez prendre leur plaque d'immatriculation si jamais
non,
le feu déclare en photo ?
Je ne suis pas capable de prendre la photo.
Ah oui, avec le portable. Ou alors la noter. Noter la plaque, la retenir.
Non, mais on a oublié un truc dans ce pays, c'est qu'on est capable de faire des vidéos pour dire aux gens, en pleine canicule, buvez, hydratez-vous, mettez-vous au frais, etc. Et en fait, on a oublié plein de communication, de répétition qui pourrait être utile, à la fois, je pense à la santé, mais à la fois sur l'écologie. Tu fais une vidéo et tu racontes comment un mégot passe de la fenêtre de chez quelqu'un et ce qu'il produit. Ben, je vais te dire, tu balances ça toute l'année, tout le temps, tu vas voir, celui qui va balancer le mégot, au bout d'un moment, il va se dire, oh merde, le mégot que je suis en train de balancer, il va faire ce chemin. Et en fait, le problème en France, c'est qu'on a oublié, on fait des trucs totalement débiles. Buvez de l'eau, hydratez-vous, allongez-vous au frais. Voilà. Mais en fait, prévention santé, prévention écologie, prévention drogue, etc., tabac, plus personne ne fait rien. Il ne se passe plus rien.
Mais c'est pour ça.
Alors que honnêtement, oui, mais... si tous les jours, on te balance une vidéo qui passe sur TikTok 500 fois et que tu vois, tu dis merde. Putain, le mégot que je viens de balancer là, le chemin qu'il a fait, il a cramé une rue, il a cramé des maisons, etc. Mais... crois-moi, même si ça fait effet sur, allez, 70-80% des gens, t'as gagné. Alors que l'écologiste, c'est tous les jours, on nous dit, consommez moins.
Non mais tu es naïve, Zora, les gens qui balancent leur mégot comme ça, ils savent très bien qu'il ne faut pas le faire.
Regarde le recul du tabac, regarde les gens fument de moins en moins.
Parce que les gens ont compris que c'était mauvais pour leur santé.
Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a de la prévention.
Les gens balancent comme ça.
Alors Laurence, on va écouter Xavier qui est dans l'Allier. Bonjour Xavier.
Bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette inconscience quand on jette un mégot par la fenêtre à la campagne, hein, bien sûr, ouais, essentiellement.
Ouais. Bah déjà, moi, j'en dis qu'en préambule, il y a un truc qui m'énerve fortement ces derniers temps. Moi, je suis écolo, hein. Donc je suis chez les écolos, voilà, j'ai une carte, voilà, je participe à la vie interne, machin. Faut arrêter de dire que tout est de la faute des écolos et que tout est punitif. Ce qui est punitif, c'est le réchauffement climatique. On en paye tous le prix. Moi, je vais vous dire, hein, j'habite dans un HLM, j'habite au dernier étage. C'était intenable. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une clim. J'ai pas eu le choix. Donc faut arrêter de dire que les écolos sont hors sol, ils vivent pas dans la même société que tout le monde. Les écolos, il y a 30 ans, alors moi je suis dans ce parti depuis 2019, hein. Les écolos, il y a 30 ans, ils l'ont dit qu'il fallait passer au train, qu'il fallait arrêter mettre du béton, qu'il fallait planter des arbres, mettre des... Oui, il y a 30 ans qu'ils l'ont dit, bien sûr. Oui,
d'accord, et dans les faits, c'est comment?
Le problème, c'est qu'en même temps, ils voulaient enlever le nucléaire. Or, heureusement qu'on a le nucléaire.
C'était
des choix importants quand même.
Mais il y a eu des choix importants. Mais déjà, si on aurait fait tout ça,
heureusement qu'on n'a pas suivi l'exemple allemand.
On aurait eu besoin de moins d'électricité. Et après, il y a quand même un sujet. Alors moi, nucléaire, on peut pas s'en passer pour l'instant, c'est clair. Et on l'a dit, il faut au moins 30 ans avant de faire la transition. Mais il y a quand même des questions, le nucléaire. Ils sont refroidis à l'eau, toutes celles qui sont sur les fleuves.
D'accord, mais il n'y a pas une énergie qui ne pose pas de problème. Après, celle qui est aujourd'hui la plus rentable, c'est la
nucléaire. Ce que je voulais dire, c'est que planter des arbres, c'est pas insurmontable. Casser du béton, c'est pas insurmontable. Prendre le train, c'est pas insurmontable. Et ça, on aurait commencé il y a 30 ans, on serait pas dans cette merde.
Alors,
arrêtez de nous emmerder avec la voiture électrique aussi.
Je préfère prendre le train, moi.
Le train qui ne fonctionne pas.
Regardez la gare de La Rochelle, par exemple, qui a été faite. Une esplanade immense, sans arbres. Il fait 50 degrés quand il y a la canicule.
Et alors, c'est pas les écolos qui l'ont faite, la gare. Et bien sûr qu'il y a des conneries de fête.
Paris, c'est
l'hôpital,
pareil.
L'hôpital de Tours, il y a un hôpital flambant neuf. À Tours, flambant neuf, 250 millions d'euros de budget. C'est la mairie écologiste qui a voulu que cet hôpital ne soit pas climatisé. On nous dit qu'il sera ventilé. Mais quand il fera 50 degrés, vous verrez qu'on regrettera de ne pas avoir climatisé cet hôpital. Hein. Donc il y a eu des choix coûteux, hein, 250 millions, et idéologiques. Et aujourd'hui, on a perdu du temps. Bien sûr que ce sont les écolos qui ont été des lanceurs d'alerte. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est eux qui alertaient sur le réchauffement climatique. Mais sur les solutions, ils ont souvent quand même été à côté de la plaque.
Xavier, on va regarder. On a posé la question incendie, jeter son mégot par la fenêtre, interdire la cigarette en voiture. Est-ce que c'est la solution? Vous dites oui à 54%. En fait, on est sur un 55-45. Tiens, les vacances. Faut pas les oublier quand même, les vacances. Les vacances bel embras. Le séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et dans les hôtels, hein, tout compris premium, où vous êtes chouchouté, pris en main, comme des coqs en pâte. Et on s'occupe même des enfants si vous partez en famille et que les enfants peuvent pas s'assumer tout seuls. Donc envoyez vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. C'est un choix dans le catalogue Bellambra. Vous regarderez si vous préférez partir à la mer, à la montagne ou à la campagne. C'est pour vous. Et le tirage au sort du gagnant tout à l'heure à 11h20. En attendant, dans un instant, de quoi va-t-on parler avec les GG, avec les grandes gueules? La sécurité sociale. Il y a une étude intéressante. Les Français trouvent qu'elle coûte trop cher et qu'elle est mal gérée. Prenez la parole avec les GG, avec les grandes gueules au 32-16. Bien sûr, vous venez discuter avec nous, vous venez débattre. Flora Guébel, Isor Habitant, Emmanuel Devilliers. François Ruffin sera tout à l'heure avec nous à 11h dans son Face au GG. Lui, François Ruffin, là, il parle. Vous savez que si jamais il est élu à l'Élysée, il veut devenir un président au SMIC. Et l'une des premières mesures qu'il prendra, c'est d'enlever tous les privilèges des anciens présidents de la République. Il viendra défendre ça tout à l'heure.
Il dit qu'Emmanuel Macron va nous coûter un pognon de dingue lorsqu'il sera plus président, puisqu'il va quitter l'Élysée, il aura 49 ans l'année prochaine, et que donc on est censé à vie lui financer son train de vie avec un bureau, du personnel, les voitures, la sécurité, etc.
Ah ben il a tout listé. Hein.
Et Sarkozy a bénéficié de ça. Hollande. Or maintenant on a des présidents qui quittent le pouvoir alors qu'ils continuent de travailler. C'est-à-dire qu'en fait ils ont double revenu. C'est-à-dire qu'ils ont parce qu'ils font des conférences. Et on leur paye quand même leur train de vie. C'est vrai que peut-être que Ruffin a raison de dire il faut remettre ça à plat.
En fait. Il viendra en parler avec nous tout à l'heure à 11h. En attendant on va regarder là 10h25. Cette étude sur la perception de la sécurité sociale par les Français. % des Français estiment que le système sécurité sociale coûte aujourd'hui trop cher.
Est-ce que vous connaissez le comité d'alerte sur l'état des finances publiques? Ça a été créé par François Bayrou il y a un an. C'est un comité, on aime bien créer des comités. Alors, ça réunit les ministres concernés. Et c'est pour voir si la France arrive à bien gérer ses finances publiques.
Donc, après commissaire au plan.
Alors, c'est un comité qui fait le constat que, non.
Ils mettent un casque pour se réunir.
Oui, parce que en fait, c'est un comité qui va faire le constat. Il se réunit aujourd'hui que non, ça va pas bien puisque les déficits prévus explosent. On avait parlé d'un déficit autour de 5. Ça sera au-dessus. Les chiffres ne sont pas bons et donc il va falloir trouver des économies. Et quand on interroge les Français, qu'est-ce qui coûte trop cher? Les Français à 71% dans une étude récente disent que la sécurité sociale coûte trop cher.
Ben oui.
Alors, si vous êtes d'accord avec ce constat, et une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait?
71%, moi je suis dedans, parce que, en fait, l'idée, c'est pas de saccager notre système social, c'est de réfléchir correctement ce système social, de lui redonner de l'efficacité. À savoir, par exemple, sur la santé. Sur la santé, je trouve que la prévention, elle est pas assez utilisée. Ça coûte plus cher de se soigner plutôt que de faire le nécessaire pour ne pas tomber malade. Donc, on met rien dans la prévention. Il y a quasiment plus de médecins scolaires, plus d'infirmières, etc. Tout ce qui est aide sociale. Et évidemment que ce qui caractérise la France, c'est la solidarité. Mais la solidarité, elle peut se remettre à plat et être rediscutée. Il ne s'agit pas de la faire disparaître.
Elle voit aussi l'efficacité.
Exactement. C'est-à-dire qu'avoir aujourd'hui des jeunes qui sont en très bonne santé, qui vont très bien, qui ont 30 ans, et qui peuvent avoir un sas de RSA, parce qu'ils ont un accident de parcours, ils sont en attente de quelque chose. Pourquoi pas? Mais quand tu t'installes dans un RSA toute une vie...
Oui, mais ça, c'est pas la sécurité sociale.
Non, mais c'est tout ce qui est prestations sociales, c'est pas que la sécu. C'est dans les prestations sociales, il y a tout ça. Et en fait, tout le système social, sécurité sociale comprise, à la fois dans comment tu te soignes, comment t'es aidé, comment on t'assiste et on t'accompagne dans un sas pour que tu retrouves du travail, etc. Tout ça, c'est à revoir, en fait. Alors, c'est ça qui est important.
C'est trop cher.
Et évident que c'est tout à revoir. C'est un scandale. C'est là le cœur des dépenses financières de l'État, 5 ou 600 milliards, on n'arrive même plus à exactement les identifier. Soulignons quand même que la sécurité sociale, au passage, c'est 300 milliards d'endettement en progression constante. Malheureusement, la difficulté, pour résumer, d'un point de vue démocratique, c'est que tout le monde est d'accord sur le constat, mais personne n'est d'accord pour aller aux solutions. Or, les solutions, elles sont forcément négatives à un moment donné s'il s'agit de faire des économies. C'est la difficulté de la démocratie, qui est une machine à perdre, hein, telle que nous y sommes parvenus en France, puisque aucune proposition d'intérêt général ne peut avoir l'assentiment de la majorité.
Non, mais Emmanuel, ça te surprend pas, ça te choque pas qu'il y ait un comité d'alerte là-dessus, alors qu'on sait depuis des décennies que c'est un système qu'il faut remettre à plat. Oui, par exemple, sur les affections de longue durée. Sur les affections de longue durée, les gens qui ont eu des cancers pendant 5 ans. 12 millions
de Français
qui voilà. T'es en guérison, 5 ans, on t'envoie un courrier, enfin c'est pas mon cas, mais pour pas mal de gens que je connais, on leur dit vous êtes plus pris en charge. Sauf que ces gens-là, quand ils ont eu chimio, rayon, de troubles psychologiques, traumatismes, etc., on leur stoppe tout. Et à côté de ça, on a des examens comme ça, des gens qui vont consommer de la santé comme s'ils allaient chez le boulanger. Et en fait, il faut protéger les plus vulnérables.
Mais quand tu veux remettre en cause, ici même, je me souviens du débat qu'on avait eu sur les arrêts maladie longue durée, où on estimait que quand on prescrit un arrêt de 3 mois, ben c'est bien peut-être qu'au bout d'un mois et demi qu'on vérifie si la personne est toujours malade.
Mais oui.
Levé de bouclier, oui.
Mais non, c'est un scandale. On s'en fout du levé de
vous
bouclier.
Vous en prenez aux malades, etc.
Il faut protéger.
En fait, dès que tu veux mettre quelques restrictions de bon sens,
Oui, mais ce qui va se passer, c'est que à force de pas vouloir avoir des restrictions de bon sens, c'est-à-dire que même les gens qui sont très malades, ils pourront même être soignés.
La grosse difficulté aussi d'un mot, c'est que quand on va devoir continuer à réduire les prises en charge de la sécurité sociale d'un point de vue hospitalier, etc., de la médecine classique, on porte atteinte aussi à un équilibre économique puisque tous ces gens-là sont payés par les fonds publics
aussi. En 1945, alors que le pays allait beaucoup plus mal qu'aujourd'hui, c'est dire, on a dit à partir de maintenant, il faut qu'on puisse soigner les gens, donc on va créer la sécurité sociale. Donc les gens comme Emmanuel qui nous explique qu'on n'a pas d'argent. Les gens qui nous expliquent qu'on n'a pas d'argent.
Je te le confirme.
Toute la journée, à l'époque, on n'avait vraiment pas d'argent puisque le pays était détruit. Il fallait tout reconstruire.
Et bien sûr, les gens travaillaient beaucoup plus. Bon. C'était le début des 30 glorieuses, etc.
D'accord. Et ben peut-être que on serait capable de travailler plus si on avait un projet de transition écologique, de transition énergétique et de transition sociale qui nous était proposé.
Je travaille pas.
Oui, enfin moi, ça vous aura pas échappé. Je suis orpheline politique, donc je me réfère à aucun candidat actuellement. Donc je pense par moi-même, si ça vous dérange pas. Et ce que je pense, c'est que aujourd'hui, la sécurité sociale aura raison de parler de prévention. Il y a une étude très sérieuse qui est sortie la semaine dernière et qui montre que une alimentation bio fait baisser de 25% le risque de cancer. Moi personnellement, je mange bio et ça me coûte cher et j'ai de la chance. J'ai le pouvoir d'achat de pouvoir le payer. Encore que, c'est cher.
Il y a des chercheurs aussi qui disent que le bio est bien.
C'est pas que la
nourriture. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est la plus grande piste de prévention qu'on peut avoir, puisqu'on découvre à quel point elle a un impact sur la santé. Toutes les études scientifiques le disent, c'est pas moi qui l'invente. Donc, si on voulait. Je suis d'accord que la sécurité sociale pensée en 1945. Aujourd'hui, elle est critiquable, elle a des défauts, elle est même à certains endroits un peu obsolète. Il faut aujourd'hui un Grenelle de l'environnement, de la santé, de tous les sujets et penser nos trois priorités. Je pense que la priorité numéro un des Français, c'est la santé. On sera tous d'accord là-dessus et remettre à plat le système.
Oui, mais on reconnaît que quand on a voulu, c'était dans le budget là, le Cornu, son premier budget, dérembourser les cures thermales, levée de bouclier, c'est de la droite d'ailleurs qui est montée au créneau pour dire non, vous comprenez, parce que ce sont des électeurs. Voilà, et que les cures thermales, ça fait vivre aussi des stations.
Alors qu'on a déjà parlé cette semaine, va pas en cure parce que le type va te dire c'est vous qui voulez nous dérembourser.
Mais bien sûr, il y a toujours une bonne raison pour ne pas dérembourser. Souvenez-vous quand on a demandé aux taxis un effort parce qu'effectivement,
beaucoup.
Personne n'a voulu.
Les taxis sanitaires.
Les gens qui vivent dans des déserts médicaux, je suis désolée. Il y a des gens, ils sont à 2 heures du premier hôpital.
Bonne raison pour ne pas remettre en cause un acquis.
Pourquoi les politiques manquent de courage et prennent pas quand même la décision?
Le taxi, c'est fondamental à la campagne. À Paris, tu peux rentrer en métro. J'ai l'exemple de mon père qui faisait beaucoup d'examens parce qu'il était malade, mais qui marchait très bien et qui pouvait prendre le bus. À chaque fois, il allait faire un examen à l'hôpital. D'ailleurs, c'était souvent des doublons et des triplons, mais comme tout est remboursé, c'est pas grave. On lui demandait, vous voulez pas prendre un taxi? Vous avez le droit à un taxi? Il dit, non, je prends mon bus.
Oui, mais Olivier, d'accord, parce qu'il était en forme.
Eh bien,
Moi,
j'ai parlé ce week-end avec des femmes qui étaient enceintes par la canicule et qui avaient 90 km pour aller faire leur échographie.
Bien sûr, mais là, tu prends l'exemple où il n'y a pas débat. Je te prends l'exemple.
Mais
la gabegie, elle n'est pas là.
Mais en fait, la gabegie,
elle est là.
Olivier, tu remets en question le principe même d'un système. En fait, on n'est pas capable de faire une règle individuelle pour 68 millions de personnes. C'est impossible.
Mais donc,
on a besoin en fait de règles.
Quand t'es dans Paris,
oui, il y a peut-être des gens qui abusent.
Généreuses.
Mais Flora, quand t'es soignée dans Paris, moi, quand je revenais de la radiothérapie et que j'étais incapable de prendre un métro, ça ne me dérangeait absolument pas de partager mon taxi avec d'autres gens.
Mais comment on faisait avant?
Ça ne gênait pas. J'aurais même préféré. Je trouvais ça indécent que je sois toute seule dans mon.
Déjà avant, on mourait beaucoup plus.
Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une mesure de bon sens, c'est te dire, je ne te prive pas de ton transport parce que tu es malade, mais par contre, tu vas le partager, ça coûtera moins cher à la Sécu, et comme ça coûte moins cher à la Sécu, on va continuer à te soigner avec des bons traitements. Donc en fait, c'est ça. Et l'autre, arrête de te mettre en malade. Dit 3 mois sans qu'on vérifie.
Et les arrêts maladiques explosent.
Tu vois,
enfin, donc, notamment chez les jeunes.
Alors, en fait, c'est pour protéger, les gens qui en ont vraiment besoin. Et si on ne fait pas ça, du coup, on va sacrifier tout le monde.
Éric, infirmier libéral. Bonjour, Éric.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Vous comprenez le mécontentement des Français vis-à-vis de la Sécu ou pas?
Après, je peux comprendre leur mécontentement. En plus, en fait, quand on dit les Français participent pas, enfin, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Il y a les franchises médicales déjà qui sont appliquées.
Oui.
Enfin, moi, à part les C2S, qui est l'ancienne CMU, où là, c'est pris en charge, parce que c'est des gens qui ont de faibles revenus, qui pensent d'ailleurs souvent que c'est gratuit, donc je leur rappelle que non, c'est pas gratuit, rien n'est gratuit la vie, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, y a rien de gratuit. Donc moi, en fait, je suis payé par quelqu'un quand je vais chez eux, donc par la société. Mais quelqu'un qui n'est pas sous couverture C2S va avoir des franchises sur les médicaments. 50 euros par an, on va avoir des franchises sur les visites médicales. 50 euros par an, on va avoir des franchises sur les infirmiers. 50 euros par an sur les examens de santé. 50 euros par an. Et ça, c'est par personne dans le foyer. Donc, vous prenez un foyer de 4, faites le calcul à la fin de l'année. Alors, c'est sûr que la dépense globale aura coûté plus cher à la société, mais il aura quand même participé largement.
Bien sûr.
Les cotisations sociales, etc., etc. Voilà. Donc on peut pas dire que les Français participent pas. Faut arrêter de toujours dire que c'est de la faute des Français. Enfin, à un moment,
on dit pas que c'est de la faute des Français. On dit simplement qu'il y a des abus aujourd'hui.
Il y a trop d'abus.
Et le tout, c'est d'arriver à les cibler et à les réduire. Éric, et vous êtes infirmier. Peut-être que vous-même, de temps en temps, vous envoyez. D'ailleurs, je pense que si on arrive à réduire ces abus, peut-être qu'on pourra justement, vous, les infirmiers libéraux, peut-être aussi un peu mieux vous payer aussi.
Il y a des consommateurs.
Voilà. C'est tout.
Il y a des consommateurs, c'est vrai. Mais quand je voyais ces orateurs, qui parlaient de transport. Alors, on entend dire, les familles peuvent pas les emmener. Mais les familles, elles sont éclatées. Enfin, on dit aux enfants qu'il faut bouger pour trouver du travail. Mais moi, j'ai des gens isolés.
Ils sont seuls.
Alors, qui va les emmener?
Moi je parlais pas des familles.
Oui, mais chacun peut un peu se responsabiliser. Je suis désolé. C'est comme la canicule. Il y a eu beaucoup de morts à domicile. Moi dans les EHPAD, tant mieux. Ça veut dire qu'on a quand même tiré les conséquences de la première grande canicule. Mais il y a eu beaucoup de morts à domicile. On dit oui, mais ce sont les personnes qui sont isolées. Mais attendez, l'État va pas pouvoir faire boire tous les gens chez eux isolés. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi quand on a
voisins,
des personnes âgées dans sa famille, on s'en occupe. Quand on a une voisine ou un voisin âgé, on peut aller le voir, lui demander si tout va bien, etc. Enfin, dans ce pays d'assister, à un moment donné, il va falloir aussi que chacun se prenne un peu par la main et qu'on se responsabilise. Parce que l'État sera toujours défaillant dans ce cas-là. On reprochera toujours à l'État un mort de trop.
Je ne dis pas qu'il y a de défaillance de l'État. Moi, ce que je vois, c'est que dans l'entourage et dans les gens que je soigne, enfin, même les gens isolés, mis à part les transports, enfin, les voisins sont là. Hein. Enfin, ça marche comme ça au quotidien.
Mais il y a beaucoup de solidarité à la campagne, d'ailleurs.
Ah, énormément, oui.
Et je vais vous prendre un exemple, Éric, là, parce que j'ai une amie infirmière qui vient de m'envoyer un petit SMS. Elle me dit, j'avais justement une discussion à propos des remboursements sur le matériel orthopédique. Un simple réhausseur de toilette vaut 22 euros. Il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, alors que la chaise percée vaut 100 euros et elle est remboursée. Et elle me dit, moi j'ai un patient, il voulait la chaise percée parce qu'elle était remboursée. Il ne voulait pas sortir les 20 euros de sa poche pour le réhausseur, alors que le réhausseur convenait. Elle dit ça, c'est des petits coups qui font finalement...
C'est comme les enfants, comme il n'y a plus de médecins et d'infirmiers scolaires comme à l'époque où on faisait...
Il n'y a plus de pédiatres.
Vraiment, voilà. C'est-à-dire que permettre à des enfants d'avoir des semelles orthopédiques parce que tout petit, en primaire, on découvre qu'ils marchent mal, et ainsi de suite, pour pas que ça se dégrade dans leur santé avec des problèmes de dos, de hanches, de scoliose, et la vue, l'ouïe. Moi, ma petite fille, on a découvert qu'elle était sourde. Elle avait 11 ans. 11 ans. C'est-à-dire que c'était une gamine qui avait des problèmes à l'école, ça marchait pas, et jusqu'au jour où on nous a dit, en sixième, elle allait en SECPA. Et on a refusé, enfin les parents ont refusé.
Elle est appareillée aujourd'hui.
Et elle est appareillée, mais l'école, depuis le CP, a pas vu. A pas vu, c'est-à-dire qu'elle était toujours... c'est une
elle
souffrance,
avait des problèmes
quoi.
D'audition.
Elle a, ouais, 40% de surdité dans une oreille, donc forcément, t'es à la rue, quoi. Et donc, comme t'es à la rue, l'école, au lieu d'avoir un médecin qui fait comme avant, la vue, l'ouïe, machin, on te mesure. Mais le truc bidon, une prévention. Ouais,
mais elle avait
c'est
un pédiatre aussi. Ton pédiatre, il s'en est pas aperçu.
Mais non.
Et le médecin généraliste non plus.
Mais non. Mais ils ont mis un peu de temps à comprendre. Ils pensaient qu'elle parlait fort. Tu vois?
Faudrait, Alain, expertiser ton anecdote parce que je pense que le réhausseur est au-dessus de la chaise percée.
Le réhausseur alors on va avoir un grand débat sur réhausseur et chaise percée.
Si mon père a été handicapé, là, je crois que.
Là, mais simplement, le réhausseur que tu poses sur les toilettes et la chaise. La chaise coûte plus cher que le réhausseur.
Oui, mais non, je pense que les deux sont associés, potentiellement.
Ah, bah là, c'est pas ce que me dit cette amie infirmière. Bon, on va vérifier ça. Réhausseur, chaise percée. Merci à Eric d'avoir été dans les GG. Sécurité sociale, est-ce qu'elle nous coûte trop cher, oui ou non? Vous mettez oui, on est exactement sur le même étiage, à plus de 70%.